Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Les sous-traitants d'Apple sont souvent considérés comme une variable d'ajustement pour le constructeur. Les efforts de flexibilité et de productivité sont souvent supportés par les fournisseurs, comme on va le voir avec un centre d'appel français pour AppleCare qui va fermer ses portes. En deuxième partie d'émission, Nicolas revient sur la dernière tendance un peu inquiétante des vols de codes de déverrouillage d'iPhone. C'est la solution ultime des malandrins pour vous priver complètement de votre vie numérique. On vous donnera quelques conseils. Nous sommes le jeudi 16 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Si Apple fait tout pour éviter les charrettes de licenciement comme à Meta, les sous-traitants ne sont pas logés à la même enseigne. Un centre d'appel basé près de Valence va mettre à la porte les 238 téléconseillers et encadrants chargés du service client d'Apple en France, autrement dit d'AppleCare. Ces conseillers ne sont pas des employés d'Apple, mais de Conduent, une entreprise américaine qui a des centres d'appel un peu partout dans le monde. Ses salariés s'occupent des petits problèmes des clients d'Apple, pour le logiciel comme pour le matériel. Lorsqu'un utilisateur Apple a besoin d'un coup de main, il appelle soit ce centre d'appel, soit ceux de Majorel, un concurrent de Conduent. La décision de fermer ce centre d'appel a été manifestement prise très rapidement, selon nos informations. Le 1er février, un comité social et économique extraordinaire a été organisé pour annoncer l'arrêt de l'activité du site suite à la rupture du contrat par Apple. Et à compter du 5 mai, les appels vers ce centre seront redirigés ailleurs. Les salariés ont essayé d'obtenir un geste sur une prime, ce qui s'est terminé par un désaccord entre le personnel et la direction. Il y a eu des journées d'arrêt de travail avec des employés qui ont été invités à rester chez eux par la suite, tout en étant payés. Au bout du compte, les syndicats demandent un plan de sauvegarde de l'emploi beaucoup plus consistant sans que tout repose sur les finances de l'État. Après tout, Apple et Conduent pourraient se le permettre. Les deux entreprises n'ont d'ailleurs jamais dit ce qui coinçait avec ce centre d'appel. Demain, c'est loin. Surtout pour Soch qui avait annoncé que la 5G allait arriver demain. Une déclaration faite en avril 2022. Si tous les concurrents proposent des forfaits avec de la 5G, il n'y a que Soch qui soit resté sur le bord de la route. Mais ça pourrait finalement changer vite, vu que l'opérateur low-cost d'Orange fait actuellement circuler un sondage auprès de ses clients. Dans ce sondage qu'on s'est procuré, Soch fait quelques suggestions sur un forfait 5G à des prix qui varient entre 20 et 23 euros par mois. Ce serait une formule à 140 gigas de données, mais avec un bridage sur le débit. Il n'irait pas au-delà des 700 mégabits par seconde, ce qui est déjà pas mal rapide. A priori, on se dirigerait vers quelque chose autour de 20 euros pour une bonne grosse centaine de gigas. Un peu plus cher que chez SFR Red ou BNU, mais c'est une habitude chez Soch. Bon sang que c'est dur à dire. Google a décidément bien du mal à éviter les fuites sur ses futurs smartphones. Et très souvent, elle révèle le design et les fonctions des pixels des mois en avance. Google a fini par en jouer en dévoilant officiellement ses appareils très en avance, histoire de couper l'herbe sous le pied des rumeurs. Cette année ne devrait pas faire exception. Une fuite a d'ores et déjà révélé le Pixel 8 dans les grandes largeurs, avec finalement assez peu de surprises. Google continuerait de miser sur le design inauguré sur le Pixel 6, avec cette bande au dos pour l'appareil photo. Et ça n'est pas terminé puisqu'il se murmure que les Pixel 7a et le Pixel Fold pourraient bien être lancés dès le mois de juin. On commence à connaître pas mal de choses sur ces deux smartphones. Le Pixel 7a sera la version d'entrée de gamme des Pixel 7 sortis à l'automne dernier. C'est d'ailleurs souvent le modèle au meilleur rapport qualité-prix qu'on vous recommande généralement chaudement. Quant au Pixel Fold, ça fait un moment déjà que les rumeurs ont fait leur travail de sape. Il s'agirait du premier smartphone pliant de Google avec un design qui rappellerait celui du Galaxy Fold de Samsung. Autrement dit, un format livre, en quelque sorte, avec un écran pliable à l'intérieur et un écran à l'extérieur. Google pourrait confirmer tout ça dès le mois de mai, pendant sa conférence des développeurs. Le chiffre du jour, c'est 10, comme 10%, autrement dit, la baisse du bénéfice net de Foxconn au dernier trimestre 2022, le gros trimestre des fêtes. Le géant chinois fabrique la plupart des produits d'Apple, et notamment l'iPhone, évidemment. Il y a eu des émeutes de travailleurs au dernier trimestre, justement dans l'usine géante qui assemble les iPhones. Pendant plusieurs semaines, la production a été perturbée, et d'ailleurs, Apple avait prévenu qu'il y aurait du retard dans les livraisons d'iPhone. Mais plus généralement, Foxconn prévoit un ralentissement de la demande de produits électroniques pour le grand public cette année. La hausse de l'inflation est passée par là, et le budget des consommateurs n'est pas extensible à l'infini. Et bien sûr, il faut s'attendre à des répercussions chez Apple aussi. C'est, paraît-il, la nouvelle marotte des voleurs d'iPhone aux États-Unis. Ces relous vont dans les bars, se jettent sur une proie facile en faisant copain-copain. Tout ça pour pouvoir jeter un œil sur le code de déverrouillage de l'iPhone de leur victime. Une fois qu'ils connaissent le code, ils s'emparent du smartphone et l'utilisateur n'a plus que les yeux pour pleurer, car il est maintenant complètement dépossédé, non seulement de son iPhone, mais aussi des données qu'il contient. Et ça peut aller très loin, comme va nous le raconter Nicolas ce matin. Salut Nicolas!
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer une fois que le voleur de l'iPhone possède le code de déverrouillage du smartphone ?
Alors, plein de mauvaises choses potentiellement.
Ouais.
En général, la première chose qu'ils vont faire, c'est de modifier, voire de supprimer le code de déverrouillage existant, désactiver Face ID ou Touch ID.
Ouais.
Ensuite, les voleurs peuvent faire un tour dans le trousseau iCloud, donc là où sont stockés les mots de passe, notamment des apps et de Safari, parce que si vous l'utilisez, ils vont y trouver tous vos mots de passe en utilisant le code, alors soit le vôtre, soit un nouveau.
Ouais.
Et on a comme ça des témoignages de personnes, en effet, qui ont perdu accès à leur compte bancaire parce que les voleurs avaient récupéré le mot de passe de leur banque, ils se sont connectés avec leur compte, ils l'ont modifié, donc ils les ont bloqués un peu à l'extérieur et ils ont en profité pour voler des sommes d'argent.
Ouais.
Alors le plus important, du point de vue du voleur en tout cas, c'est que ce code de déverrouillage suffit pour modifier le mot de passe du compte iCloud.
Ouais.
Donc en le faisant, en fait, le voleur prend contrôle de tout le compte, tout votre compte Apple, et il peut faire donc surtout le plus important pour lui, ce qui est déconnecter l'iPhone qui vient de voler de votre compte, désactiver localiser et ainsi vous empêcher d'intervenir à distance par le biais de l'app localiser qui permet normalement, rappelons-le, d'effacer un iPhone à distance, entre autres choses. Mais là, une fois qu'il a été réinitialisé, une fois que l'appareil n'est plus associé à votre compte, il pourrait être revendu sans aucune crainte.
Ouais. Un des aspects le plus problématique de toute cette histoire, comme tu le disais, c'est le changement du mot de passe du compte iCloud. Et là, pour le coup, Apple a facilité la vie des voleurs.
Alors oui, mais c'est quand même pas volontaire. Hein.
Ouais.
En fait, Apple a trouvé un moyen d'aider les utilisateurs distraits qui perdent leur mot de passe. On a peut-être du mal à se rendre compte, mais à l'échelle de l'entreprise, ça représente sans aucun doute des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui tous les ans oublient leur mot de passe de compte iCloud. Et plutôt que de gérer tous ces étourdis un par un dans les boutiques ou par le biais de le support, en fait, l'entreprise a eu l'idée de proposer une méthode qui leur permet de réinitialiser le mot de passe en toute autonomie, sans l'aide de personne.
Oui.
Donc concrètement, l'idée c'est que si vous utilisez un appareil qui a été déjà associé à votre compte iCloud, et si vous connaissez le code de déverrouillage de l'appareil, c'est une preuve qui est jugée suffisante que vous êtes l'utilisateur légitime du compte.
Oui.
À partir de là, dans l'après-réglage, quelques tapes suffisent à changer le mot de passe du compte sans avoir à saisir l'ancien.
Mmh.
Évidemment, dans le cas où votre iPhone a été volé après que les malfaiteurs ont récupéré le code de déverrouillage, cette solution d'aide pour les étourdis devient une catastrophe. Et on peut espérer qu'Apple trouve une meilleure option pour fermer cette porte.
Ouais.
Peut-être justement une option que les utilisateurs avancés pourraient activer pour dire « moi je veux pas que cette méthode soit encore active ». Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Ouais. Il existe une astuce justement en utilisant tant d'écrans, mais ça reste pas vraiment formidable, quoi.
Tout à fait. Pour l'anecdote, en fait, j'avais commencé à faire un article sur cette astuce. Mais en l'écrivant et en testant moi-même, je me suis aperçu d'une part que c'était pénible au quotidien, et d'autre part, encore plus important, que ça protège rien du tout. Donc je ne vais pas l'expliquer à l'oral parce que c'est assez compliqué à détailler, d'autant plus à l'oral, mais bon, je vous renvoie à l'article si ça vous intéresse. L'idée en gros, c'est de détourner la fonction temps d'écran qui permet normalement de bloquer des fonctionnalités sur les iPhones de ses enfants. Donc on peut détourner cette fonction pour bloquer, par exemple, la possibilité de modifier le compte. Néanmoins, cette astuce, au mieux, elle vous fera gagner quelques minutes de temps après un vol, mais elle ne va bloquer en aucun cas un voleur motivé, parce qu'il y a d'autres méthodes pour désactiver ce code et ensuite revenir. Bref, ça, c'est pas très utile, ça gêne l'utilisation et ça vous aidera pas mieux.
Ouais. Alors, il existe plusieurs manières de se protéger au moins un minimum, par exemple, tout simplement avec Face ID ou Touch ID, mais même dans ces cas-là, c'est parfois pas suffisant.
Oui, en effet, il faut peut-être rappeler d'abord que les voleurs récupèrent, comme tu le dis en introduction, ils récupèrent le code de déverrouillage quand vous le tapez en fait dans un lieu public. Alors, c'était souvent des bars dans les exemples. Et donc, ils le récupèrent en regardant, tout simplement, quand vous tapez votre code. Il y a plusieurs techniques qui avaient été décrites pour vous inciter à le taper. Un des exemples assez malins, c'est qu'un il y a deux personnes, un complice qui vous prend en photo, qui vous propose, et en rendant l'iPhone, il appuie quelques secondes sur les boutons à droite et à gauche de l'appareil, ce qui désactive automatiquement Face ID. Donc ça, c'est une sécurité qui est bien utile, par exemple, quand on va dans des pays qui peuvent être susceptibles de récupérer votre iPhone, voilà, ça désactive Face ID. Le truc, c'est que donc il vous le rend comme ça, il y a un deuxième complice derrière vous qui surveille, et au moment où vous voulez utiliser l'iPhone, vous devez saisir votre code, et c'est là qu'il le mémorise, etc. Donc on pourrait dire, la bonne solution, c'est de ne jamais saisir son code en public, hein, et d'utiliser Face ID ou Touch ID, ou alors de le saisir en faisant bien attention, avec le même sens de son entourage, de ce qui se passe autour de soi, que quand on saisit un code de carte bleue à un distributeur. Mais bon, rappelons le contexte, on est dans un bar, comme tu disais, il y a pas mal de monde, probablement un peu d'alcool, les victimes n'ont pas toujours les idées claires. D'ailleurs, il y a même eu des témoignages de voleurs qui attendaient en fait que leurs victimes soient suffisamment intoxiquées pour scanner leur visage ou utiliser un doigt pour Touch ID et déverrouiller leur iPhone, un iPhone à leur insu. Donc là, c'est encore pire, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour rendre la vie plus difficile aux voleurs finalement ?
La seule vraie bonne solution, c'est de ne plus utiliser les codes à 4 ou 6 chiffres qui sont proposés par défaut. Le défaut, c'est 6 chiffres. Voilà. 4, c'est une très mauvaise idée en termes de sécurité. 6, c'est mieux, sauf quand quelqu'un vous espionne. Alors, vous pouvez à la place choisir un mot de passe complexe, donc avec des lettres et des chiffres. Donc là, vous allez considérablement réduire les risques, puisque quand vous tapez le code, c'est sur le clavier habituel de l'iPhone, les touches sont toutes petites et ça ne va pas être facile de repérer par-dessus votre épaule. Par contre, ça va aussi vous compliquer votre quotidien, parce qu'il va falloir saisir le code à chaque redémarrage, après chaque mise à jour, et de temps en temps, quand Face ID ou Touch ID ne fonctionne plus, etc. Alors à la place, moi je recommanderais le code numérique plus long, donc c'est la dernière option proposée par Apple. L'avantage du point de vue confort quotidien, c'est que vous utilisez le même pavé numérique à grosses touches, donc certes, on peut plus facilement vous espionner, mais vous pouvez vous compenser en mettant plus de 6 chiffres. Vous pouvez en mettre 8, 10 ou encore plus. Une bonne idée, par exemple, c'est d'utiliser un numéro de téléphone, le vôtre même, ou pourquoi pas deux numéros de téléphone à la suite, donc ça fait 20 chiffres. D'accord, ça va être un peu long à taper, hein, ça, y a pas de doute, mais ça reste moins pénible qu'un mot de passe, je pense, parce que les touches sont assez grosses. Et en face, même si le voleur peut suivre ce que vous faites, bon courage pour retenir, mettons, 20 chiffres, parce qu'il faut tous les retenir, tous dans le bon ordre, et il faut se souvenir qu'après 10 essais, iOS peut automatiquement s'effacer, l'appareil iOS, donc là, vous serez quand même plutôt tranquille.
Alors, quand un malandrin vole un iPhone et le code de déverrouillage, il a aussi accès, comme tu disais tout à l'heure, à tous les mots de passe enregistrés dans le trousseau iCloud. Ça veut dire un accès illimité à tous les services web auxquels on accède, notamment ceux de sa banque. Là, pour se protéger, il n'y a pas vraiment de solution simple.
Il n'y a pas de solution simple, à condition de vouloir rester avec le système d'Apple, avec le trousseau iCloud. Ouais. Parce que vous pouvez très bien utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers, par exemple 1Password. L'avantage énorme, c'est qu'il sera déverrouillé par un autre code que celui de l'iPhone. Et en général, c'est un mot de passe qui est censé être solide, que vous connaissez bien, mais qui n'est pas un mot de passe léger. L'autre avantage, c'est que au quotidien, ça n'est pas très différent du trousseau iCloud en réalité. Touch ID ou Face ID servent à permettre d'accéder aux données sans avoir à saisir le mot de passe à chaque fois. Et l'autocomplétion fonctionne aussi dans le navigateur et même dans les apps. Et donc, si on vous vole votre iPhone, le code de déverrouillage de l'appareil ne servira pas à accéder à ces mots de passe, donc de ce côté-là, vous serez protégé. Néanmoins, étant donné que le trousseau iCloud, c'est un peu la solution par défaut, qui est mise en avant, qui est gratuite en plus, on peut quand même espérer qu'Apple offre une meilleure option. Il y a une bonne idée qui a circulé, notamment dans les commentaires, qui était de pouvoir définir un code spécifique à l'application réglage, en fait, tout entière. C'est pas idiot, parce qu'on n'en a pas besoin d'ouvrir l'application toutes les deux minutes, donc ça serait pas une gêne non plus importante, et ça serait une protection importante à la fois pour les mots de passe et à la fois pour changer le code du compte iCloud. Donc peut-être que c'est cette solution qu'Apple privilégiera à terme.
Finalement, la seule solution, c'est de jamais sortir de chez soi.
Voilà, c'est exactement ce qu'on fait, hein, nous deux. On est bien mieux en restant chez ses chats de toute manière.
Eh bien, merci pour ces bons conseils, mais on attend quand même qu'Apple serre la vis parce qu'il y a là une espèce de faille de sécurité à boucher. Là. Salut Nicolas.
Salut.
Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.